Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme dans une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à une analyse critique de la collapsologie. Et pour en parler, nous sommes avec Benoît, théoricien de la critique de la valeur française, et
Théa,
qui travaille sur marxisme et écologie. Alors du coup, je vous ai invité aujourd'hui parce que vous travaillez tous les deux sur ce sujet. Donc,
Théa, tu as écrit un article
dans Autonomie de classe qui s'appelle « La collapsologie, une pseudo-théorie de la crise pour une non-action politique ».
Et Benoît, tu as écrit un article sur ce sujet intitulé « Une critique anticapitaliste de la collapsologie » et qui est paru en janvier 2023 aux éditions L'Harmattan.
Et donc, on pensait que c'était important aujourd'hui de parler de la collapsologie parce que c'est peut-être la théorie écologiste aujourd'hui, peut-être la mieux connue dans le grand public, qui touche de Extinction Rébellion à Édouard Philippe. Donc, c'est pour dire que le spectre est assez large. Et on pensait qu'une analyse critique assez fine de ce courant, donc en France, qui est incarné par quelqu'un comme Pablo Servigne et Raphaël Stevens, semblait important à faire, puisque, évidemment, ça renvoie à pas mal de thématiques qu'on a traitées par ailleurs dans l'émission, donc la question de la crise écologique, la question du capitalocène, la question de l'effondrement écologique, etc., etc. Donc peut-être que pour commencer, ce serait important de savoir voilà, qu'est-ce que c'est que la collapsologie française, on va parler surtout de la collapsologie française aujourd'hui, même si on montrera que la collapsologie française telle qu'on la connaît, elle a des ancêtres, notamment aux États-Unis. Benoît, est-ce que tu peux voilà, nous dire brièvement qu'est-ce que ce courant de la collapsologie en France, par qui il est incarné et comment est-ce qu'il s'est manifesté, notamment en termes de publication de livres ces dernières années?
Ça a commencé par « Comment tout peut s'effondrer » de Stevens et Servigne, qui est le bouquin qui présente les grands thèmes de la collapsologie en France, donc autour aussi de la figure charismatique de Servigne qui va écrire d'autres bouquins avec d'autres camarades à lui. Ça va être ensuite un autre bouquin, « Une autre fin du monde est possible », donc de Stevens, Servigne et Chapelle. Et ça va être aussi un ouvrage de sociobiologie qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », ça c'est Servigne et Chapelle qui réfléchit sur la question de l'entraide autour, par exemple, de Kropotkin, mais on y viendra tout à la fin. Donc, pour commencer, un des thèmes les plus connus de la collapsologie, c'est la question du pic pétrolier. C'est ce qui ouvre un peu leur bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». Dans ce bouquin, Stevens et Servigne, ils vont comparer ce qu'ils appellent la civilisation thermo-industrielle à une voiture lancée en pleine vitesse. Et pour eux, la fin des années 40 constituerait la grande accélération. C'est une chose qu'affirment aussi les anthropocénologues. Le pic pétrolier, pour eux, va être un point de bascule décisif pour penser la collapsologie. Et il correspond à ce qu'ils appellent une limite infranchissable et l'extinction du moteur. Ils disent donc « Nous sommes arrivés en haut de la courbe de production conventionnelle ». De l'aveu même de l'Agence internationale de l'énergie réputée pour son optimisme en matière de réserves pétrolières, le pic mondial de pétrole conventionnel, soit 80% de la production pétrolière, a été franchi en 2006. Nous nous trouvons depuis lors sur un plateau ondulant. Donc ils disent ça, page 43. Et pour eux, ce qui est aussi décisif, c'est le fait que le TRE, le taux de retour énergétique des ressources fossiles, devient trop bas pour que leur exploitation soit faisable et rentable. Ils disent « C'est un point absolument crucial. Après un effort d'extraction, c'est le surplus d'énergie qui permet le développement d'une civilisation. Au début du XXe siècle, le pétrole états-unien avait un fantastique TRE de 100 pour 1 pour une unité d'énergie investie, on en récupérait 100. En 90, il n'était plus que de 35 pour 1. Et aujourd'hui, il est d'environ 11 pour 1. Donc, ils insistent par exemple sur le fait que le pétrole et le gaz de schiste ont un TRE très bas, tout comme certaines énergies renouvelables à la manière du photovoltaïque. Donc du coup, pic pétrolier, mais aussi pic de tout, parce que pour eux, les ressources fossiles, comme les ressources extractives nécessaires à la civilisation thermo-industrielle, entreraient dans leur phase de raréfaction globale. Donc ça, c'est vraiment leur thèse de base, on peut peut-être commencer par y réfléchir ensemble, sachant qu'ils vont connecter en fait le pic pétrolier à la question des crises financières. Et je peux peut-être finir sur cette citation pour avoir un peu une vision d'ensemble de ce qu'ils disent. Un système d'aide, un besoin boulimique de croissance, donc d'énergie. Mais l'inverse est aussi vrai. Notre système énergétique se shoot aux dettes. Ainsi, la courroie de distribution tourne dans les deux sens. Un déclin de la production de pétrole pousse nos économies vers la récession. Et inversement, les récessions économiques accélèrent le déclin de la production énergétique. Plus précisément, le système économique mondial est aujourd'hui pris en tenaille entre un prix élevé et un prix bas du pétrole. Donc, il postule l'existence d'un axe énergético-financier qui représenterait le cœur de notre civilisation industrielle. Et cet axe énergético-financier nous précipiterait, selon eux, droit dans le mur, à la fois un mur financier et à la fois un mur énergétique. Donc voilà, pour le présenter brièvement, c'est un peu ça, la thèse première qui va guider tout leur premier ouvrage. Peut-être que vous avez des choses à dire par rapport à ça.
Si je peux compléter un petit peu, mettre en perspective ces thèses, je pense qu'elles finalement reprennent des thèses assez classiques de l'écologie politique des années 70 sur la limite à la croissance. C'était un grand thème ouvert par un rapport, le Club de Rome, au début des années 70, qui indiquait en fait que la tendance au progrès exponentiel de la population et de la consommation de ressources allait se heurter nécessairement à un ensemble de limites. Et alors ces limites, bon, c'est effectivement des limites de ressources absolues, donc pas d'essence, pas de moteur, pas de mouvement de la société, et aussi des limites peut-être d'absorption des écosystèmes, de toutes les externalités, de toutes les pollutions, de tous les déchets. À mon avis, ce que rajoute la collapsologie, c'est comme la phase un peu supérieure de dire que ces limites sont désormais atteintes et que nous sommes au seuil de l'effondrement. Et alors on pourrait rétorquer que le capitalisme, dans son incroyable inventivité, serait capable de toujours découvrir d'autres ressources. Et l'argument clé des collapsologues consiste à dire que les ressources énergétiques pétrole ne peuvent être remplacées que par des ressources bien plus limitées. Par exemple, si on a plus de ressources fossiles, on se tournerait vers le bois, hein, et cela engagerait une déforestation d'autant plus rapide. Donc en fait, on arriverait à une sorte d'enchaînement comme ça des raréfactions et des catastrophes écologiques. Moi, je pense que cette mise en lumière par les collapsologues de l'intersection entre les crises écologiques et les crises financières montre tout de même qu'il ne s'agit pas juste d'une conception de la crise comme destruction immédiate de la société par la nature. C'est la recherche un petit peu de ce point de fragilité des sociétés qu'ils appellent thermo-industriels, qui serait le système financier qui ferait tenir toutes les parties ensemble et qui serait fragilisé par la rareté en ressources.
Oui, donc en fait, on a l'impression qu'effectivement, la collapsologie prend en compte que la crise écologique générée par le capitalisme n'est pas simplement une sorte de contradiction externe qui ferait que le capitalisme, finalement, générerait des externalités écologiques telles que, à un moment, la vie serait plus possible sur Terre et le capitalisme s'effondrerait incidemment, mais que finalement, cette crise écologique est déjà une contradiction interne au capitalisme, dans le sens où, par exemple, le renchérissement du prix du pétrole, par exemple, prix de production du pétrole en l'occurrence, entraînerait forcément des conséquences négatives sur finalement la bonne marge du capitalisme, même si en réalité je pense que l'idée que effectivement le capitalisme génère une contradiction écologique à la fois interne et externe de plus en plus forte et qui à terme tendanciellement sera insoutenable, elle est juste. Après effectivement ce qui est plus complexe, c'est de dire à partir de quel moment est-ce que vraiment ça sera plus soutenable pour le capitalisme, voilà, cette crise écologique. Et on peut penser que malheureusement, on risque d'attendre quand même longtemps un effondrement global, écologique, qui simplement voilà, ferait disparaître comme par enchantement les structures capitalistes. On peut penser plutôt que l'effondrement, entre guillemets, n'aura jamais lieu comme grand moment T qui ferait table rase à l'échelle mondiale du capitalisme parce que les conditions de vie sur Terre seraient devenues invivables. Mais on peut penser plutôt que le capitalisme peut s'accommoder d'effondrements écologiques partiels, d'une accélération des événements météorologiques extrêmes, et qu'en ça, on peut difficilement, disons, parier sur l'effondrement écologique tel qu'on parle les collapsologues, comme voie de sortie du capitalisme, comme ils semblent le faire, même si eux ne sont pas tellement intéressés en soi, disons, par la sortie du capitalisme.
Oui, et par ailleurs, tu parlais de contradictions internes du capitalisme. C'est un peu court de postuler cet axe énergético-financier, sachant que les prix du pétrole n'ont pas forcément une incidence immédiate sur l'état de la finance internationale, laquelle est déjà un effet par rapport à la contradiction de base du capitalisme, qui touche d'abord l'économie réelle. Et il n'y a pas de pensée chez les collapsologues de la contradiction interne à l'économie réelle, qui peut déboucher sur une dévalorisation de la valeur fictive, etc., etc. Donc c'est un peu court à postuler comme ça un axe énergético-financier sans prendre en compte de façon multifactorielle ce qui pèse aussi sur la contradiction interne de l'économie réelle. Et ça manque dans leur démarche complètement pour penser finalement le capitalisme, parce que ce qui manque chez eux, c'est effectivement une pensée du capitalisme. Ils parlent de civilisation thermo-industrielle, ils ne parlent jamais de capitalisme. Et d'ailleurs, on va voir que dans leur troisième ouvrage, ils sont limite à postuler un alter-capitalisme écologiste. Ils ne sont pas du tout anticapitalistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait appuyer dans notre analyse critique. Pourquoi parler de civilisation thermo-industrielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi aussi peu d'analyse sur la question de l'économie réelle? Voilà, moi je pense que c'est des choses intéressantes à creuser, quoi.
Ouais, je pense que ce terme-là, c'est la reprise d'un grand classique de l'écologie politique, de dire finalement que la source des problèmes écologiques est civilisationnelle. Ça correspond à un certain degré de progrès de l'humanité qui, par son inventivité technique, a découvert de nouvelles techniques qui lui permet en fait de décupler de manière exponentielle son emprise sur la biosphère, comme ça dans une sorte de trajectoire un peu linéaire et d'ailleurs inhérente à son essence. C'est dans la nature humaine que de poursuivre un tel projet, et il faudrait du coup nous transformer, changer notre nature pour parvenir à y échapper, quoi. C'est ce nécessitarisme très fort, à mon sens, qui caractérise la compréhension des crises par la collapsologie, une représentation des crises comme effondrement contre lequel on ne peut rien, qui est inéluctable, inévitable. Et je pense que c'est important de définir ce concept d'effondrement qui est au centre, donc le collapse, hein, en anglais, qui est au centre du projet idéologique de la collapsologie. Pour eux, l'effondrement désigne un moment d'aggravation des crises qui frappent le système socio-économique, qui serait tel qu'il aboutirait à partir d'un certain moment à quoi ? À la rupture de l'approvisionnement des biens de subsistance fondamentaux. Autrement dit, à la limite des biens alimentaires. On ne pourrait plus finalement subvenir aux besoins directs d'une grande partie de la population. Et cela provoquerait immédiatement une chute démographique brutale. Les collapsologues n'hésitent pas à dire que la population du globe peut chuter, chutera de un tiers, deux tiers. Alors il y a des spéculations. Mais ça aussi, c'est des thèses qui en fait, ils n'ont pas inventées, mais qu'ils reprennent dans un contexte où la conscience de la crise est beaucoup plus forte, et du coup qui ont une tendance à se développer, à se répandre de manière beaucoup plus rapide. Et je pense que dans la collapsologie, finalement, on retrouve une conception de la société et de son rapport à son environnement, on peut dire écologique, qui est très malthusienne. Une conception qui a tendance à voir dans un excès de la population et de son développement la source du problème, un problème qui se réduirait du coup à un problème démographique, à une chute de la population, l'effondrement, ce serait ça ses conséquences dernières.
Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis concernant le malthusianisme, Daniel Tanuro, dans un article contre la collapsologie, explique qu'ils sont assez influencés par Diamant et son best-seller Effondrement, qui a une lecture souvent démographique, qui renvoie la question de l'effondrement à la question démographique. C'est une question aussi qui est très présente chez Yves Cochet, qui se dit lui-même néo-malthusien. Et Yves Cochet, ça a été un des maîtres à penser de Pablo Servigne. Donc c'est quand même des questions qui se posent, ce néo-malthusianisme latent ou larvé, et qui, je pense, nous empêche de penser le capitalisme en tant que tel et détourne la question vers des questions naturalisantes ou vers un naturalisme parfois suranné. Et je pense que c'est ça qui se joue avec eux. Je peux peut-être passer au deuxième thème qu'ils abordent dans leur bouquin. Donc, dans le chapitre 3 de leur ouvrage « Comment tout peut s'effondrer », Servigne et Stevens, ils vont parler des changements climatiques liés à l'anthropocène. Et ils utilisent le terme d'anthropocène. Dans cette démarche de cibler d'abord l'anthropocène et non pas forcément, par exemple, le capitalocène, il y a une tendance à brouiller les frontières entre sciences naturelles et sciences humaines, et une tendance à naturaliser le fait social même, et aussi une démarche positiviste. Pourquoi l'anthropocène aujourd'hui, c'est un fétichisme finalement ?
Ils reprennent ce concept d'anthropocène, donc voilà, anthropos, c'est l'être humain en grec ancien, et scène, donc c'est ce qu'on met à la fin de toutes les époques géologiques, l'Holocène, les 10 000 années qui nous précède depuis la dernière glaciation, le Pléistocène, etc. Bon, c'est un concept qui est assez débattu par les scientifiques, mais dont effectivement des gens se sont emparés, et notamment voilà les collapsologues. Et en gros, c'est l'idée que avec le dérèglement climatique, comme le dérèglement climatique entraîne des changements écologiques globaux et même des changements géologiques globaux, eh bien, on serait basculé dans une nouvelle ère géologique qui serait caractérisée donc par le fait que ce serait l'espèce humaine, donc l'anthropos, qui serait voilà désormais la plus grande force écologique et géologique à l'échelle mondiale. Et évidemment, cette thèse là où elle est critiquable, c'est que ça rend toute l'espèce humaine de manière indifférenciée responsable du dérèglement climatique, alors qu'on sait que un tiers de l'espèce humaine ne contribue pas au dérèglement climatique, et on sait par ailleurs que les inégalités de classe, notamment, ou entre pays, en termes de contribution au dérèglement climatique, sont tellement gigantesques que ça n'a pas beaucoup de sens, disons, de parler de l'espèce humaine. Et en fait, je pense que leur utilisation du concept d'anthropocène et de civilisation thermo-industrielle, c'est finalement très cohérent avec leur vision totalement naturalisante des rapports sociaux. C'est-à-dire que finalement, pour eux, eh bien, c'est simplement une certaine quantité d'humains qui ne fait qu'accomplir la nature humaine qui serait faite d'une volonté de croître en termes de consommation énergétique et en termes de population. Et donc, finalement, la crise aujourd'hui serait le produit à la fois du fait que nous aurions l'espèce humaine trop augmenter notre consommation énergétique, d'une part, et que nous serions trop nombreux, d'autre part. Et donc, ça appellerait pas tellement à une possibilité de transformation révolutionnaire, puisque, précisément, cette trajectoire de la civilisation thermo-industrielle n'est en fait que la trajectoire de l'espèce humaine depuis, finalement, presque des centaines ou des milliers d'années. Depuis l'invention du feu, certains défenseurs de l'anthropocène disent. Et donc finalement, la civilisation humaine, voilà, qui à un moment serait basculée sur les énergies fossiles, mais finalement, quand ils parlent de civilisation thermo-industrielle, ce n'est que la continuation de la civilisation humaine, eh bien donc, serait incapable de se transformer puisque c'est dans la nature humaine. Et donc à un moment, la seule chose qui peut stopper cette crise écologique créé par l'espèce humaine tout entière, ce serait donc un effondrement. Là, maintenant, ils commencent à envisager d'autres perspectives, mais c'est intéressant, on en parlera plus tard, du fait que ça ne remet pas en cause, finalement, le fait que le problème, ce ne sont pas des rapports sociaux capitalistes, donc qui sont à l'origine du dérèglement climatique. En réalité, on y a consacré d'autres émissions. Et finalement, le seul changement qualitatif, à la limite, qu'ils envisagent, et ça, on en parlera, c'est se changer soi-même individuellement, mais évidemment pas remettre en cause la société qui est réellement à l'origine du dérèglement climatique et de la crise écologique que nous connaissons, c'est-à-dire le capitalisme, d'où le concept de capitalocène.
Et surtout, tu as moins insisté sur cet aspect, la confusion entre les sciences naturelles et les sciences humaines à travers la notion d'anthropocène. Ça, c'est un des éléments les plus criants. C'est Daniel Tanoureau qui dit ça aussi, d'ailleurs, dans ses critiques. C'est ce positivisme et ce naturalisme des collapsologues qui tendent sans cesse à ramener les sciences humaines vers les sciences naturelles. C'est quelque chose d'extrêmement problématique. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir aussi parfois naturaliser la société capitaliste.
Oui, effectivement, c'est un aspect effectivement central aussi des théoriciens de l'anthropocène, que finalement, de ne pas penser la société et son impact écologique en termes de rapports sociaux, de rapports de production, de modes de production, de société capitaliste, mais en termes finalement d'espèces humaines. Donc il y a une catégorie complètement biologisante qui fait qu'on ne peut pas trouver de solution politique puisque le responsable, entre guillemets, ce serait la nature humaine, l'espèce humaine.
Et c'est quelque chose qui transparaît complètement dans la méthodologie, en fait. Il y a à la fois la représentation des sociétés comme étant, en fait, juste des formes de l'espèce humaine et pas du tout des rapports sociaux, de domination avec des antagonismes de classe. Et une manière de traiter, en fait, les phénomènes sociaux de manière purement quantitative. Et ça transparaît à travers une prévalence des schémas, des représentations graphiques, des courbes exponentielles qui, sous cette forme visuelle immédiate, semblent absolument nécessaires. On y voit en fait des tendances comme ça qui contraignent le progrès des sociétés, mais on n'explique pas d'où elles viennent. On ne fait que montrer quelque chose. Donc regardez, il y a des courbes de croissance exponentielle de quoi ? De la population, de la consommation énergétique, des destructions environnementales, etc., etc. Et donc, on constate par le fait. Et le fait est censé valoir comme vérité. Mais on ne se demande jamais quelle est la cause, l'explication de cette croissance. Et on donnera, par exemple, une même cause unique à l'explication de la croissance démographique et l'explication de la croissance de la consommation des biens matériels, énergétiques, qui ne recoupent pas immédiatement le rythme de la croissance démographique. On ne se demandera jamais pourquoi, même dans les sociétés qui ont atteint un degré de stabilisation de croissance démographique, leur emprise écologique, leur empreinte écologique, leur destruction écologique continue de croître de manière exponentielle. Et ce genre de questions-là ne se pose pas puisqu'on ne fait que montrer des graphiques de manière quantitative sans se demander quelle est la qualité du développement, pourquoi il intervient. Et pour faire ça, c'est absolument essentiel de regarder ce qui se passe dans la société et pas juste entre la société comme une boîte noire et la nature. Et dans la société, on a des logiques de domination qui ne sont jamais prises en considération par les théoriciens de la collapsologie. Ce qui conduit en fait à faire de l'humanité en entier l'agent responsable du problème et de soumettre tout le monde à la même catastrophe.
Oui, d'ailleurs, j'enchaîne sur le reste des thèmes de cet ouvrage, de ce premier ouvrage, Comment tout peut s'effondrer, parce que c'est complètement lié à ce qu'on vient de dire. Il y a par exemple dans le chapitre 7 la question « Quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent annoncer un effondrement à venir ?» Et pour ce faire, ils vont utiliser des schèmes issus des sciences naturelles, ils vont utiliser des schèmes statistiques pour essayer de penser les signes avant-coureurs. Et l'usage de la statistique, il est ici paradigmatique pour penser la manière dont une science qui quantifie en fait les phénomènes va pouvoir rendre compte de l'effondrement. Cette tendance positiviste, elle éclate aussi dans le chapitre 8 quand ils font référence à des logiciels qui ont permis de prévoir à travers une série de courbes des effondrements. Ils citent le rapport du Club de Rome, effectivement, mais ils citent aussi le logiciel Andy qui permet d'anticiper les risques d'effondrement en fonction de paramètres précis. Et ils vont distinguer trois types de sociétés. Une société sans élite et égalitaire, une société avec une élite qui ne s'accapare pas le surplus, et une société avec une élite qui s'accapare le surplus. Et l'humain est pensé schématiquement comme un prédateur, et dans les deux derniers cas, l'effondrement n'est pas évitable. Donc à partir d'un phénomène abstractisé donné, l'espèce humaine, ils vont ajouter des paramètres, générer une simulation informatique, et la réponse à la question de l'effondrement serait donnée. Donc là, c'est vraiment une logique presque informatique, presque cybernétique, qui s'applique à leur schéma de l'effondrement. Et je dis cybernétique parce que ils pensent aussi beaucoup à travers la thermodynamique en parlant d'entropie. Donc l'informatique et la thermodynamique, elles sont complètement à l'œuvre pour penser le phénomène de l'effondrement, le phénomène de l'entropie. Et on sait à quel point ça peut être dévastateur dans les sciences humaines d'utiliser de tels outils. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre de simulation informatique, la question de la thermodynamique, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez Bernard Stiegler. Je trouve que c'est des questions qui sont urgentes aujourd'hui à poser. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus?
Bah, je pense que le problème effectivement de ces formes de modélisation, c'est qu'elles induisent finalement une certaine forme de déterminisme. C'est-à-dire que finalement, et c'est là la métaphore d'ailleurs de la voiture, hein, c'est cette espèce de voiture qui serait lancée à pleine vitesse et qu'on ne pourrait pas contrôler. J'ai l'impression que dans la collapsologie, voilà, il y a une certaine forme de déterminisme scientifique, finalement, qui rappelle le pire du marxisme objectiviste du 19e et du 20e siècle, où finalement, la trajectoire, alors cette fois-ci pas du capitalisme ou du mode de production capitaliste, mais de la civilisation humaine, de l'espèce humaine, serait complètement déterminée, et qu'on pourrait donc finalement le prévoir d'une manière scientifique, puisque finalement l'espèce humaine fonctionnerait selon des lois naturelles, d'une certaine manière, et donc effectivement on peut modéliser son comportement, on peut l'anticiper, etc. Et c'est intéressant que tu disais effectivement que selon leur modèle, dès qu'il y a une élite, l'effondrement est inéluctable, parce que finalement ça postule le fait que dès qu'il y a une élite, c'est-à-dire dès qu'en gros l'espèce humaine, les groupes humains cessent d'être des bons chasseurs-cueilleurs primitifs, on reviendra peut-être d'ailleurs sur ce primitivisme un peu plus tard, mais disons voilà, dès que l'espèce humaine cesse d'être des bons sauvages, entre guillemets, avec tout le mythe rousseauiste, voilà, du bon sauvage, qui est évidemment un mythe raciste et colonialiste et qui ne correspond pas à la réalité historique. Mais dès que finalement les groupes humains cesseraient d'être tels, finalement les êtres humains se transformeraient en moutons, et donc finalement, d'une certaine manière, un des reproches centraux qu'on peut quand même adresser à la collapsologie, c'est le fait qu'il dépeint une société humaine dépourvue de contradictions internes, de luttes sociales, de contestations, qui peuvent éventuellement renverser, par exemple, le capitalisme et donc empêcher l'effondrement écologique qu'ils annoncent. Alors effectivement, certains défenseurs de la collapsologie plus à gauche vont dire « Oui, mais regardez, tout comme le Club de Rome a inspiré certaines formes de contestation écologiste anticapitaliste, on voit bien que la collapsologie peut nourrir, par exemple, des groupes comme Extinction Rébellion. Donc, d'une certaine manière, le constat catastrophiste qu'ils font peut aussi nourrir finalement des contestations à l'intérieur du capitalisme lui-même et contre le capitalisme. Mais le problème, quand même, malgré tout, c'est que en ne désignant pas le capitalisme comme responsable de la crise écologique contemporaine et en rendant responsable, voilà, l'espèce humaine qui serait mue, voilà, par ces espèces de lois naturelles, eh bien évidemment, la collapsologie, au moins en tant que telle, elle ferme la porte effectivement à ce genre de contestation anticapitaliste.
Effectivement, je pense qu'on a affaire dans cette représentation des dynamiques sociales comme des trajectoires nécessaires, naturelles, inscrites dans la nature de l'être humain, etc., à une réification des rapports sociaux. Ce concept de George Lukács dans Histoire et conscience de classe, qui indiquait en fait que les phénomènes sociaux sont représentés comme des choses naturelles. Les individus s'affrontent en fait à leurs propres produits, hein, leurs rapports sociaux, comme à des déterminismes naturels. Et c'est quelque chose qui n'est pas propre à la collapsologie, c'est une tendance d'une certaine sociologie déterministe, etc. C'est quelque chose qui a aussi nourri l'histoire du marxisme. Mais je pense que ce qui est particulier dans la conjoncture actuelle, c'est que cette victoire de la collapsologie, ou du moins l'hégémonie qu'elle tend à prendre dans le champ intellectuel classe moyenne, un peu critique français, c'est en fait le revers de nos défaites. Que la crise qui existe, l'aggravation des crises qui se manifestent sous des formes socio-écologiques auxquelles on se confronte aujourd'hui, ne parvient plus à être pensée que sous la forme d'un effondrement nécessaire, parce que les individus ont été réduits à des individus passifs suite à un ensemble d'échecs et de défaites des luttes sociales dans lesquelles une action collective permet de se représenter la société comme le produit de cette action et permet de se représenter du coup la crise pas comme un moment d'effondrement nécessaire mais comme un moment aussi qui donne prise à une action transformative. Et je dis pas qu'on est obligé d'être collapsologue dans une période de suite qui fait suite à des défaites sociales, mais je dis que c'est une tendance qui encourage ensuite de telles représentations. J'en sais important en fait de faire aussi un peu une genèse matérialiste des tendances idéologiques qui existent. Aujourd'hui, elle est très prégnante parce que les outils aussi intellectuels que la théorie critique, le marxisme et d'autres tendances ont pu donner ont moins de place. En fait, la collapsologie s'engouffre dans le vide qui est laissé par la théorie et les luttes.
Oui, surtout que quand on se penche sur leur second ouvrage, ou plutôt leur troisième, et on va traiter en second, Une autre fin du monde est possible, c'est vraiment un ouvrage de développement personnel individualiste à l'ère de l'effondrement. Et c'est essayer de vivre avec ça, essayer de vivre avec l'effondrement. Il n'y a pas d'enjeu de lutte collective, il y a un fatalisme pur qui découle vraiment de leur schéma naturaliste. Et je pense qu'il faut connecter les deux, ça me paraît décisif de le faire, de connecter leur approche naturalisante et réifiante, comme tu le disais, avec leur individualisme et leur développement personnel. Les deux sont connectés, en fait, les deux sont liés, et ils traduisent tous les deux l'abdication du mouvement social. C'est vraiment la collapsologie, un fatalisme naturaliste, un fatalisme parce qu'on ne peut pas éviter l'effondrement, parce qu'on a déjà, de façon sous-jacente, naturalisé les rapports sociaux existants, et parce qu'on ne peut pas l'éviter, on se réfugie dans une espèce de développement personnel à l'ère de l'effondrement qui nous permet de vivre avec ça et de le supporter. Il faut savoir que ce développement personnel s'adresse très essentiellement à un sujet occidental plutôt aisé. Et c'est ça qui questionne aussi dans leur démarche. Voilà, c'est peut-être aussi cette position qu'il faudra questionner en parlant du deuxième bouquin. Donc, ils ont écrit un deuxième livre où ils essayent de rattacher la collapsologie à des sortes de recettes de développement personnel qu'ils appellent collapsosophie. La collapsosophie, c'est la sagesse de la collapsologie. Donc, c'est une somme de recettes métaphysiques, parfois même spiritualistes, psychologiques, pour vivre l'effondrement. Et donc, le sous-titre, c'est « Comment vivre l'effondrement et non pas simplement y survivre ». Dans cet ouvrage, ils vont commencer par appliquer la pyramide de Maslow. C'est une théorie de la motivation qui a été élaborée dans les années 40 et qui distingue plusieurs besoins, des besoins qui sont d'abord physiologiques, la faim, la soif, le sommeil, la respiration, puis le besoin de sécurité, puis d'appartenance et d'amour, et enfin, en haut de la pyramide, le besoin d'accomplissement de soi. Et il critique les survivalistes en disant que les survivalistes, au sens traditionnel, ont plutôt tendance à rester sur la base de la pyramide et pas avoir les autres besoins. Et eux, ils essayent de penser une théorie psychologique qui prenne en compte tous ces besoins à l'ère de l'effondrement. C'est ça leur objectif. Donc ils s'emparent finalement de la pyramide de Maslow, qui a pu influencer ensuite le développement personnel en entreprise, etc., pour penser la manière dont on va vivre l'effondrement. Et dans la première partie, ils vont lister en fait plusieurs formes de catastrophes, comme l'ouragan Katrina, Fukushima, l'effondrement du bloc de l'Est, la perte écologique, la dépression des scientifiques de l'Anthropocène. Donc en vrac, comme ça, ils vont balancer tout ça en vrac, ils vont essayer de penser la manière dont ces personnes essayent de gérer la catastrophe et comment ils vont pouvoir aussi psychologiquement la gérer. Leur point de vue à eux, c'est vraiment d'essayer de penser comment les individus presque atomisés en fait, vont essayer de gérer des multiples catastrophes, non pas pour transformer radicalement la société, mais pour tout simplement se conserver eux-mêmes. Il y a une théorie de la conservation qui est assez forte dans leur démarche. Et c'est pour ça que je pense que c'est une forme de survivalisme complexe qu'ils essayent de mettre en place. Ce n'est pas un survivalisme au sens traditionnel, mais c'est un survivalisme complexe de la satisfaction de tous les besoins de la pyramide de Maslow. Est-ce que vous avez déjà des choses à dire par rapport à ça ?
Alors, je voulais compléter ton tableau comme ça de la solution psychologique bon marché qui est proposée aux lectrices et aux lecteurs désespérés de l'état du monde actuel. Et un des premiers stades dans le programme de développement personnel qui nous est proposé à la lecture du livre, c'est de faire son deuil. C'est d'accepter que la maladie arrive. Alors, il y a la métaphore ici qui n'est plus simplement naturaliste, mais aussi médicale, qu'on a affaire à une crise comme une maladie irrémédiable, comme un cancer, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et de même que le patient atteint ou la patiente atteint d'une telle maladie a une phase de stupeur suivie d'une phase d'acceptation et du coup de libération, les patients et patientes, intéressant l'expression aussi, que nous sommes de la société actuelle et de son état de désastre, doivent faire l'épreuve d'abord de la réalisation du désastre à venir. Je pense que les collapsologues diraient aujourd'hui que cette épreuve est faite. Et ensuite, donc faire le deuil d'un monde dans lequel on vivait, faire le deuil d'une société d'abondance, faire le deuil de sa propre position sociale, etc. Et d'accepter que tout va s'effondrer, que tout doit s'effondrer. Et donc cette expérience d'acceptation, de résignation, je pense que c'est comme ça qu'il faut le décrire, est conçu comme quelque chose de libérateur. Libérateur en quoi ? Libérateur par rapport à son bien-être psychique personnel. Ensuite se pose la question de la traduction de cet apaisement momentané dans une vie qui peut être digne, libre et émancipée. Et c'est cette traduction, à mon sens, qui est pensée de manière tout à fait simplifiée, avec plein de courts-circuits, quoi, comme on pourrait dire.
Sur la maladie que tu citais, il cite la maladie de Huntington. Ça, c'est dans la suite, en fait. Ce que tu as dit, en fait, est complètement dans la suite de l'ouvrage. Dans le chapitre 1, ils reprennent une métaphore clinique. La métaphore clinique qui s'appuie sur la maladie de Huntington, donc qui est une maladie, en fait, dégénérative grave. Et quand on fait un test, en fait, génétique, on peut savoir ou pas si on est porteur de cette maladie. Et on a plus de 90% de chances de mourir environ à l'âge de 40 ans. Et ils disent que découvrir la collapsologie, ça peut être le même effet que découvrir un test positif à la maladie de Huntington. Donc ils font quasiment une analogie entre le savoir collapsologique et le savoir génétique, qui est quand même une forme de fatalisme particulièrement agressif. Ça, c'est sur la question de l'analogie clinique, c'est la maladie de Huntington. Ils disent clairement, la première chose qu'on a tirée à titre de leçon, c'est qu'il est inutile de se battre contre la maladie, parce que ça n'apporte pas grand-chose de constructif. La deuxième leçon, c'est on ne peut pas annoncer que tout est foutu. Et la troisième leçon, c'est que à la suite de ce type d'annonce, il faut retrouver la confiance en soi par la création, l'exploration, le partage des expériences. Donc une démarche très individualiste. C'est cette analogie-là qui quand même fait réfléchir, surtout que la première leçon, c'est quand même arrêter de se battre contre la maladie. Donc de toute façon, la maladie est là, l'effondrement s'annonce, inutile de se battre contre cette maladie, de toute façon, elle est irrémédiable.
Et sur cette résignation sur laquelle il est inutile de se battre contre la maladie, il y a quelque chose d'assez amer et d'assez cynique, dans la mesure où les luttes existantes vont être conçues comme non seulement des actions désespérées, inutiles, mais comme des facteurs aggravants de la maladie, des facteurs qui l'empêcheraient en fait de la vivre de manière paisible et sereine. J'avais lu un article où Servigne parlait des mouvements sociaux dans ces termes, et ça m'avait semblé assez symptomatique de cette méthode-là.
C'est obscène, même. On peut dire que c'est carrément obscène de parler en ce terme. Et puis même, c'est un point de vue de surplomb. C'est le point de vue de quelqu'un qui fait des graphiques complètement surplombants sur la société, mais qui ne s'implique pas dans les luttes existantes. Et cette position de surplomb, elle est choquante, quand même. Je crois qu'on peut le dire.
Je crois que ce qui est intéressant pour faire le lien entre donc ce dont on parlait sur le premier livre, cette espèce de déterminisme, de l'idée voilà qu'il y a une trajectoire de l'espèce humaine qui serait voilà comme ça prédéterminée par sa nature humaine et son accroissement quantitatif, et voilà cette espèce de prêche à la résignation, je trouve que d'une certaine manière on a là les deux aspects voilà d'une sorte de subjectivité un peu néo-stoïcienne, hein, pour faire référence à ce courant philosophique dans l'Antiquité qui prêchait voilà une certaine voilà l'idée de voilà le fait de s'adapter au monde tel qu'il est sans chercher à le transformer ou à le modifier pour justement vivre pleinement en phase avec lui. Et j'ai l'impression que là où les deux aspects donc cette espèce de voilà de prêche à la résignation et cette espèce d'ultra déterministe en fait se rejoignent sur un peu une forme de d'une certaine manière c'est une vraiment l'incarnation pour moi de la conscience fétichiste voilà de ce qui se passe, c'est-à-dire que d'une certaine manière là je suis peut-être un peu trop gentil avec eux, mais d'une certaine manière Servigne et Stevens montrent bien que effectivement le capitalisme et sa dynamique contiennent, même s'ils le disent eux de manière complètement fétichiste en parlant de civilisation thermo-industrielle, mais ils montrent bien, involontairement, entre guillemets, que le capitalisme a une certaine trajectoire, une certaine logique contraignante qui contraint l'horizon des possibles, et que effectivement la logique du capitalisme aboutit voilà à une crise écologique, alors peut-être pas un effondrement, mais disons à une aggravation perpétuelle de la crise écologique. Mais eux, ils le voient d'une manière fétichiste, à la fois dans le sens où ils ne nomment pas cette trajectoire comme étant capitaliste, mais comme étant simplement la trajectoire naturelle de l'espèce humaine. Et puis d'autre part, c'est fétichiste aussi dans le sens où on a l'impression que réellement, les mécanismes économiques, alors là même pas, hein, les mécanismes de la civilisation humaine, comme ils le disent, hein, c'est-à-dire même pas les mécanismes capitalistes, en fait, sont largement supérieurs à nous et qu'on ne peut rien faire. Ils perçoivent la civilisation humaine comme une espèce de fétiche qui serait au-dessus de nous et auquel on ne pourrait rien faire, comme si ce n'était pas nous qui produisions et reproduisions le capitalisme jour après jour. Et donc finalement, d'une certaine manière, dans cette conscience fétichiste du capitalisme, à la fois ils oblitèrent le fait que c'est bien le capitalisme qui nous mène à cette catastrophe écologique dans laquelle nous sommes déjà, et d'autre part, ils voient le capitalisme qui apparaît dans leur discours comme étant la civilisation humaine, comme quelque chose d'irrenversable, et d'où leur injonction à simplement se résigner, à accepter voilà, l'évolution du monde.
Néanmoins, il y a une défense des luttes dans cet ouvrage, vous allez voir, une défense de certaines luttes en tout cas, comme les ZAD par exemple, comme les luttes des afro-descendants. Quel statut donner à ces défenses des luttes sous la plume des collapsologues, sachant qu'ils ont d'emblée exclu la possibilité de lutte qui nous fasse sortir de l'effondrement? Ils défendent le principe de la ZAD. Ils écrivent aussi en citant Bonneuil, « Il est aussi important de défendre l'idée que les luttes indigènes et afrodescendantes au sud, comme les mouvements antiproductivistes et autonomes au nord, inventent des formes d'émancipation et d'autogestion démocratique. » Donc, ils sont dans la défense de certaines luttes. Luttes antiproductivistes, luttes anticolonialistes, ZAD, etc. Mais ils ont dit par ailleurs qu'il était inutile de se battre contre la maladie. Moi, j'ai une certaine lecture de ça. Je pense qu'ils ont une conception romantique de la lutte et qu'ils voient dans ces luttes la possibilité de conserver des modes de vie qui sont en phase avec leur ontologie primitiviste, et que du coup ces luttes-là ne sont pas susceptibles forcément de dépasser l'aliénation capitaliste sous leur plume, mais en tout cas elles sont susceptibles de conserver des modes de vie qui pourront, après l'effondrement éventuellement, reconstruire un monde plus émancipé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que pour leur faire justice, il faut quand même reconnaître qu'ils défendent certaines luttes. Et ils citent Bonneuil d'ailleurs, Bonneuil qui a écrit un ouvrage intéressant sur l'anthropocène. Qu'est-ce que vous en pensez de cette défense des luttes par les collapsologues ?
Très rapidement, l'hypothèse que je peux émettre, et puis, mais j'ai l'impression que en fait, finalement, il défend le versant positif entre guillemets des luttes, c'est-à-dire le fait qu'elles réinventent des rapports sociaux, voilà, qu'elles sont des manifestations de l'entraide dont ils parlent dans leur livre, mais pas du tout le versant négatif entre guillemets, c'est-à-dire dans leur aspect de pure confrontation et de pure contestation du capitalisme. Donc d'une certaine manière, pour eux, finalement, les luttes sont intéressantes parce qu'elles sont des espaces où émergent d'autres rapports sociaux qui sont intéressants, et c'est en ça que c'est quand même, disons, une collapsologie de gauche par rapport à une collapsologie de droite, disons, qui serait dans une forme de pessimisme radical vis-à-vis de la nature humaine, qui serait simplement individualiste et égoïste, et d'où le fait que ils ont un survivalisme, disons, un survivalisme un petit peu différent de celui, par exemple, de Pietro San Giorgio, voilà, qui est très, qui a un survivalisme, voilà, d'extrême droite. Eux, ce qu'ils apprécient, voilà, c'est d'une certaine manière un mode de vie alternatif qui naîtrait dans ces luttes, mais pas du tout le fait qu'elles sont des luttes anticapitalistes qui visent donc finalement à s'opposer à la trajectoire du capitalisme. Eux, ce qu'ils voient, c'est plutôt quelque chose qui, à côté de la trajectoire du capitalisme, ou qui, après le capitalisme, serait intéressant, mais pas du tout en opposition à la trajectoire du capitalisme.
Bah, ce sont des luttes sans lutte. C'est-à-dire, ce sont juste des pratiques politiques alternatives qui se font en parallèle d'un système de domination. Et s'il y a la moindre croyance qui peut être générée là, dans cette pratique politique comme étant une solution possible, c'est bien parce que il y a pas de conception des rapports de pouvoir et de domination. Et également l'idée que l'effondrement, en fait, en faisant s'écraser tout le système en place, laisserait un terrain libre, une tabula rasa pour la construction d'alternatives. Et donc, il faudrait commencer cette construction d'alternatives au moment où l'ensemble se fissure pour leur permettre de germer quand celui-ci, disons, aura laissé ses cendres chaudes sur lesquelles faire fleurir l'avenir, quoi. Mais ça, c'est un idéalisme politique total qui ne prend pas du tout en considération la résistance, la persistance de la domination en place pour maintenir sa finalité, qui est la reproduction sur une échelle élargie de la valeur, de l'accumulation, il faut le dire en des termes marxistes assez classiques, et qui est prête à tout pour le faire. Et qui est prête non seulement à faire s'effondrer une partie de l'humanité existant dans ses marges, et à écraser de manière, cette fois-ci active, on peut dire que c'est la lutte qui vient du dessus, écraser en fait ces alternatives par son appareil de monopole de la violence qui est mis au service de la défense de ses intérêts. Et c'est cette conception-là du rapport de force qu'il existe entre un État qui n'est pas neutre, mais qui est un instrument de domination de classe, et un ensemble de populations qui sont dominées par cette structure-là, qui n'est pas théorisée. Et ce point aveugle donc donne lieu à un idéalisme politique dont on ne doit pas simplement mesurer l'inefficacité, mais aussi interroger les intérêts qu'il défend. D'une certaine manière, on peut supposer aussi que la collapsologie n'a pas, que les collapsologues n'ont pas intérêt à ce que cette structure de domination change. Voilà, c'est une hypothèse que je lance un peu comme ça dans la suite de la discussion.
Moi, je propose qu'on revienne aussi sur sur les déterminations épistémologiques qui se manifestent dans leur deuxième ouvrage, là, dont on parle depuis tout à l'heure, « Une autre fin du monde est possible ». Ils sont pour définir une nouvelle science de la complexité, c'est-à-dire faire s'interconnecter les savoirs. Ils vont dire, par exemple, « Savez-vous quel est le point en commun entre le fonctionnement du microbiote dans notre intestin, la diffusion des fake news sur les réseaux sociaux, la formation des cellules terroristes au Moyen-Orient, la surprenante fragilité de la finance internationale ou l'existence de seuils d'effondrement de populations d'animaux, tous ces phénomènes vus et analysés comme des réseaux d'interaction et dont on commence seulement à comprendre comment ils se forment ou se désagrègent, montrent une étonnante universalité de structure. » Moi, j'ai l'impression que ici, la cybernétique va être un savoir qui va permettre la connexion entre les différents savoir-pouvoir de la modernité. Cette connexion, elle a aussi un principe, c'est la distinction entre le système intuitif et le système rationnel. Dans le chapitre 4, ils vont reprendre une distinction élaborée par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui voyait deux modes cognitifs qui façonnent notre comportement, le système expérientiel et intuitif, le système 1, qui est préconscient, rapide, automatique, holistique, principalement non-verbal et lié aux affects, et le système 2, conscient, analytique, lent, rationnel, principalement verbal et non lié aux sentiments. Et du coup, ils vont s'appuyer sur l'idée que la collapsologie demande une forme de focus sur le système intuitif, le système 1, et ils vont même préciser en fait leur vision en s'appuyant sur des recherches en management. Alors là, c'est assez étonnant. Ils disent en 2005, des chercheurs en sciences du management ont encore affiné leur compréhension en distinguant deux types d'intuition, l'expertise automatisée, l'intuition holistique. La première est celle qui fait que nous conduisons parfaitement une voiture sans y penser consciemment. C'est celle qui accélère le traitement des tâches lorsque la situation est familière. La seconde, l'intuition holistique, est un jugement ou un choix que l'on fait à partir d'une synthèse inconsciente issue d'informations, issue de diverses expériences. Donc, ils vont carrément citer un prix Nobel d'économie et des chercheurs en management pour penser le système intuitif comme système holistique qui permet de prendre en compte toutes les données de la collapsologie pour fonder une sorte de pressentiment, c'est-à-dire le pressentiment à l'effondrement. Donc, c'est assez étonnant d'avoir des références au management et à l'économie dans ce qu'elle a le plus positif possible. Mais en même temps, je trouve que ça traduit bien leur façon dont ils ne sont pas du tout anticapitalistes. Voilà, ça c'est sur le plan épistémologique.
Ce qui je trouve intéressant, c'est de représenter en fait des pratiques comportementales, des modèles les plus standards dans le monde existant comme étant les modalités par lesquelles on va ensuite créer des nouvelles façons de vivre, des nouvelles formes de vie émancipées, quoi. C'est qu'on a une tendance peut-être dans ce que tu as décrit, c'est comme ça que je le comprends, à s'inspirer des méthodologies psychologiques, médicales, etc., qui ont pour finalité la meilleure adaptation des individus dans le système existant, le monde du travail, la concurrence, etc., et de transposer ces méthodes-là pour penser l'organisation sociale future. Et que du point de vue du coup là un peu plus de la subjectivité du rapport des individus au monde, on imagine en fait qu'on va pouvoir garder, conserver la même subjectivité et lui offrir un nouveau terrain de jeu.
Oui, on est dans une forme de naturalisation finalement des rapports humains qui sont vus comme simplement voilà le produit d'une nature humaine. Une nature humaine notamment en réseau qui fonctionnerait d'ailleurs, c'est une nature humaine qui elle-même en fait est disons très similaire en fait finalement à la manière dont fonctionnent les autres êtres vivants, et effectivement c'est un petit peu ça l'hypothèse dans leur livre sur l'entraide où effectivement à travers la référence à Kropotkin, bon effectivement qui est un des fondateurs de l'anarchisme, donc quelqu'un qui a priori assez éloigné d'une acceptation passive du système capitaliste, malgré tout, ils utilisent ces analogies, voilà, entre le fonctionnement, voilà, d'une équipe managériale et d'une société future et des animaux, etc. Finalement, tout ça aboutit quand même à une forme de naturalisation des rapports sociaux et à l'idée finalement, voilà, que encore une fois, on ne peut pas changer grand chose. À part effectivement à une échelle individuelle, par le biais du développement personnel, qui est pourtant, on le sait très bien, le développement personnel est avant tout une manière de s'adapter aux contraintes destructrices psychologiquement du capitalisme, pas du tout une manière de changer le système pour aller mieux.
Oui, et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, là c'est carrément choquant, mais pour eux, il y a un point de passage entre l'anarchisme et le management, parce qu'ils vont critiquer la hiérarchie en citant un spécialiste en management qui explique que la hiérarchie n'est pas bonne pour l'entreprise, et juste dans la foulée, ils vont citer un anarchiste qui explique que la hiérarchie est pernicieuse dans les rapports d'entraide et dans une société émancipée. Donc pour eux, il y a une solution de continuité entre le néo-management et ces hiérarchies horizontales, entre guillemets, et l'anarchisme qui critique la hiérarchie. Ça, c'est assez choquant et ça se retrouve dans toute leur démarche. Et effectivement, ils ne remettent pas en cause le modèle de l'entreprise. Pour eux, la collapsologie est elle-même une entreprise à part entière qui tend à insérer les individus dans un schéma d'acceptation du deuil, dans un schéma en plusieurs étapes, hein, d'ailleurs, c'est toujours plusieurs étapes, d'acceptation du deuil, d'acceptation de la maladie et d'adaptation finalement, de s'adapter aux contraintes qui ont été imposées par un tel système pour justement se conserver soi-même. Donc toute l'idéologie finalement libérale, elle est conservée dans leur intention et faut voir qu'elle touche même jusqu'à leur épistémologie qui va s'appuyer sur des recherches en management et des recherches en économie. Sur la suite de leur épistémologie, ils vont aussi insister sur le fait qu'il faut inclure les savoirs indigènes. Ils écrivent « Durant la seconde moitié du XXe siècle, certains constataient que les grandes aventures technoscientifiques, la révolution verte par exemple, échouaient à améliorer durablement les conditions de vie de la majorité des paysans dans le monde, alors que la plupart des scientifiques voyaient les savoirs traditionnels comme inefficaces, inférieurs ou comme des obstacles au développement. Les anthropologues qui travaillaient avec les peuples autochtones, souvent opprimés, savaient que ceux-ci portaient une sagesse qui met l'accent sur le caractère symbiotique de l'homme et de la nature. » Et donc leur idée, c'est que les savoirs indigènes et les savoirs scientifiques doivent converger pour donner lieu à une approche de la collapsologie qui soit la plus humaine possible.
Alors, moi, j'ai une remarque un peu pour juste mettre en lumière l'ironie de l'histoire, un peu amère, de penseurs qui ont une position de surplomb pour juger l'histoire de l'humanité comme étant l'histoire de son effondrement, l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, une histoire qui est racontée vraiment du point de vue de l'homme blanc et de son désarroi face à la fragilisation de son modèle d'existence sociale. Et pour ensuite, de ce point de vue-là, aller se tourner vers ce qu'ils appellent du coup savoir indigène, pour infuser ces savoirs-là dans leur position préalablement marquée en fait de point de vue très très eurocentré, quoi. Et comme tu me l'avais déjà dit, Benoît, je pense que c'est une thèse qui est aussi intéressante et que tu pourrais peut-être développer, celle que l'effondrement, en fait, pensé par les collapsologues comme quelque chose qui est imminent et qui arrive pour les sociétés occidentales européennes, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu pour énormément de sociétés qui ont été phagocytées par le capitalisme dans son expansion coloniale. Que cette dynamique historique comme ça, un peu plus complexe, n'est pas du tout réfléchie par le grand récit de la collapsologie.
Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'essaie de penser, c'est qu'il n'y a pas une fin du monde, mais il y a des fins du monde. Il y a des catastrophes en chaîne. Le capitalisme est un crash permanent. Il y a des catastrophes en chaîne dans le capitalisme, il y a des génocides en chaîne. Penser la fin du monde comme un futur menaçant, c'est une perspective très eurocentrée finalement. Parce que c'est penser non pas la fin de la civilisation thermo-industrielle comme abstraction, c'est penser la fin de la civilisation occidentale. Et je pense qu'ils sont confrontés à ça, les collapsologues, c'est qu'ils ne voient pas les fins du monde qui ont été des cataclysmes qui, en fait, ponctuent le capitalisme de façon barbare depuis son émergence, mais ils ne voient qu'une fin du monde futur comme pure perspective, de telle sorte qu'ils se confrontent simplement à la possibilité de la fin de l'hégémonie du sujet masculin occidental blanc. Et que c'est ça qui les angoisse, finalement, sans se confronter à l'angoisse du capitalisme en tant que tel, qui est une série de crashs permanents. C'est le problème du travail de mémoire, je dirais, que de ne pas être obnubilé par un futur apocalyptique, mais de voir que la fin du monde est aussi derrière nous. Voilà, tout simplement. Quand on voit les génocides coloniaux, c'était des cataclysmes absolus. Et c'est irréparable. Et pourtant, il faut avoir par rapport à ça un minimum de dignité et ne pas se précipiter en avant comme ça. Cette fuite en avant, c'est justement la fuite en avant du capitalisme.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Benoît, parce qu'effectivement, finalement, les collapsologues et ceux dont ils s'inspirent, notamment Jared Diamond, ont tendance à penser l'effondrement des sociétés quand ils ne pensent pas à l'effondrement global qui vient, entre guillemets, mais à la limite l'effondrement de sociétés particulières. Ils pensent toujours en termes d'effondrement écologique qui sont souvent ramenés à des causes démographiques, même si en réalité les choses sont beaucoup plus complexes. On sait par exemple que l'effondrement, entre guillemets, de l'île de Pâques s'est déroulé d'une manière très différente de ce que raconte Jared Diamond. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que effectivement, la plupart des effondrements, entre guillemets, de sociétés au cours des deux derniers siècles, et même, on va dire, depuis le XVIe siècle, donc là, ça nous éloigne effectivement de la seule question du capitalisme, mais ça renvoie plus généralement à la question du colonialisme, que effectivement c'est le colonialisme européen occidental, même si il y a un moment il y a eu également le colonialisme japonais, voilà, qui ont été le principal facteur de destruction de sociétés, voilà, depuis plusieurs siècles. Et effectivement, ce cas d'effondrement n'est pas du tout pensé dans le cadre de la collapsologie, précisément un, parce que ça introduit la notion qu'il n'y a pas une espèce humaine, ou disons des représentants à un endroit d'une espèce de nature humaine qui finalement se déroulerait partout ailleurs de la même manière, mais là, bon voilà, on est sur une île, il y a des ressources plus limitées qu'ailleurs, il n'y a pas la possibilité de bouger, donc on arriverait, entre guillemets, naturellement à une situation d'effondrement. Aussi, ça pense aussi à la question des rapports de pouvoir aussi, du fait que non seulement tous les êtres humains ne sont pas les mêmes, mais en plus, ils entretiennent des rapports de pouvoir entre eux et qu'une société peut en détruire une autre.
Bah, ça me permet d'enchaîner sur la suite, parce que c'est complètement lié. Justement, les collapsologues, ils ont bien lu leur classique, ils ont lu Philippe d'Escola, et ils essayent de montrer qu'il faut prendre en compte toutes les ontologies, et pas simplement l'ontologie occidentale. Donc d'Escola, qui est l'anthropologue qui distingue quatre ontologies, le naturalisme, qui est l'ontologie de la modernité occidentale, qui invente le concept de nature et la dualité humain-nature, le totémisme, donc ils expliquent qu'il se retrouve en Australie, en Amérique du Nord, et qui reconnaît une similitude des intériorités et des extériorités, l'analogie, qui est le système de représentation des peuples d'Amérique centrale, d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest, qui présuppose une différence d'intériorité et d'extériorité, et l'animisme, qui est présent chez les peuples autochtones d'Amérique du Sud et du Nord et dans certaines parties de l'Asie, qui est une ontologie inverse du naturalisme, qui voit des similitudes entre les êtres du point de vue des intériorités. Donc du coup, ce que disent les collapsologues, c'est qu'il faut prendre en compte toutes ces ontologies et ne pas se focaliser sur l'ontologie naturaliste, parce que sinon ce serait ethnocentrique, ce serait colonialiste, ce serait finalement une démarche particulariste que eux ils récusent. Mais en même temps, dans toute leur démarche, il n'y a que des rapports militaires, des rapports scientifiques durs des sciences occidentales, des rapports du management, des rapports d'hommes politiques, etc. Enfin, il y a toujours des rapports qui sont faits avec uniquement les sciences naturalistes occidentales. Donc on se demande d'où ça vient cette perspective qu'ils imposent, si ce n'est qu'un saupoudrage, presque New Age hein, chez eux, qui s'approprie finalement la pluralité, le pluriversel, mais qui ne sait pas le pratiquer, quoi. Donc c'est un peu la même question qui se pose quand ils parlent des luttes. Ils parlent de lutte comme un saupoudrage, mais ils n'en parlent pas comme quelque chose d'efficient.
Bah, j'ai l'impression que en fait, ça traduit une nouvelle fois le fait qu'ils ont une approche du réel qui est complètement idéaliste, vraiment dans le sens épistémologique. Hein. Donc l'épistémologie, voilà, c'est la manière dont on connaît le monde. Donc nous, on a une manière de connaître très scientifique, etc., rationaliste, quantitative, et d'autres, ils peuvent avoir d'autres épistémologies. Et l'ontologie, hein, pour préciser un petit peu ces concepts philosophiques un peu complexe, c'est là pas tellement la manière de connaître, mais la manière de se représenter le monde, les discours sur qu'est-ce qu'est le monde, parce que ontos en grec c'est qu'est-ce qu'est l'être. Et encore une précision, quand tu parlais d'intériorité et d'extériorité, les intériorités, ça veut dire entre guillemets l'âme, hein, de la manière dont on le pense en Occident, et les extériorités, c'est plutôt, disons, la partie biologique, la corporalité et tout ça, d'où le fait que, par exemple, Nous, on perçoit qu'il y a un continuum sur le plan de l'extériorité parce qu'on considère que tous les êtres vivants, ils sont faits de cellules biologiques, etc. Mais pour autant, on est radicalement différent des animaux parce qu'eux seraient bêtes, instinctifs, etc., etc. Alors qu'il y a effectivement d'autres sociétés qui vont penser exactement l'inverse, qui vont penser qu'on est très différent d'un point de vue corporel, mais que pour autant, en fait, finalement, il y a des similitudes au niveau de l'âme, donc ça, c'est le cas de l'animisme. Donc maintenant que j'ai fini un petit peu ces précisions qui me semblaient nécessaires, ils sont... Alors, je pense qu'il y a effectivement, comme tu dis, Benoît, un effet saupoudrage, c'est-à-dire, entre guillemets, on va se donner bonne conscience, et je pense qu'il y a même, on peut se dire, finalement, aussi... une forme vis-à-vis des savoirs vernaculaires, des autres ontologies, etc., dans la mesure où ça arrive un petit peu après, au contraire, une démonstration qui est extrêmement scientiste, on a l'impression aussi que c'est un peu une sorte de racisme bienveillant. C'est-à-dire, bon, nous, on a la vérité, on a la science de l'effondrement, mais écoutons quand même les bons sauvages d'Amérique du Sud, etc. Ils ont peut-être d'autres choses à nous apprendre, mais sur le monde d'après, quand il faudra réinventer un autre monde, finalement une espèce de monde au-delà de la civilisation humaine, donc finalement c'est là où il y a une espèce de tension chez eux, où à la fois ils sont très primitivistes, d'où le fait qu'ils apprécient les savoirs vernaculaires ou ce qui se passe à la ZAD, mais en même temps, dans leur constat et dans leur manière d'être, dans ce qu'ils sont aujourd'hui et maintenant, au-delà d'une espèce d'utopie post-effondrement, ils sont au contraire très scientistes, très modernistes. Pour eux, finalement, leur rapport aux luttes positives, entre guillemets, ou leur rapport au savoir indigène n'a pas, au savoir vernaculaire, puisque bon, la catégorie d'indigène, une catégorie partiellement coloniale, à manier avec précaution. Alors, voilà, c'est un rapport, voilà, effectivement, de pure extérieur, voilà, en pure extériorité, en passant, et effectivement, qui ne les engage pas fondamentalement. Ils ne sont pas, entre guillemets, pour qu'aujourd'hui et maintenant, on abolisse les rapports capitalistes et les modes de savoir pour prévenir l'effondrement. C'est simplement après l'effondrement, peut-être qu'il faudra s'intéresser à ce que ces bons sauvages, entre guillemets, ont fait.
Et encore une fois, je pense que dans la recherche comme ça d'alternatives théoriques, alternatives ontologiques ou comme on veut les appeler, se traduit en fait une sorte de conception très duelle, soit du monde présent représenté en bloc comme cette société thermo-industrielle dont il n'y a rien à sauver et qu'il faut en fait laisser s'effondrer, et ensuite la recherche d'un ailleurs, d'un bel ailleurs, bien sûr idéalisé, représenté de manière utopique, comme finalement la ressource des possibles, mais dans laquelle on peut projeter absolument tout ce qu'on veut. Et c'est une pensée qui n'est pas du tout, qui est pas du tout sensible en fait aux antagonismes, je pense, qui sont présents dans le monde habité en fait par ces théoriciens, et qui a une tendance à tomber dans une régression romantique pour les pratiques et les formes de vie et les formes de savoir qui précèdent ou qui sont extérieurs à la société dans laquelle on vit. Moi, je sais pas trop, en fait, dans quelle mesure on peut développer des pratiques stratégiques de lutte à partir de ces représentations, là. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas toute une richesse pour construire ensuite cet autre monde, mais la médiation est complètement absente. Et cette médiation étant absente, ça tend aussi du coup à idéaliser des choses qui sont tout à fait nauséabondes. Donc bien sûr, on peut se rapporter au savoir vernaculaire des populations qui ont été colonisées pour avoir un peu de crédit auprès des personnes critiques par rapport à ces logiques-là. Mais on peut aussi, en tant que saupoudreur professionnel, se référer à la psychologie des profondeurs de Jung et des théories comme ça du retour à l'être intime de soi-même dans son rapport à la nature, qui, elles, ont des racines beaucoup moins sympathiques. Je pense que Benoît a quelque chose à nous raconter là-dessus.
Juste une remarque sur ces quatre ontologies. Elles sont pensées en fonction de la dualité intérieure-extérieure, et la dualité intérieure-extérieure, elle est propre au paradigme naturaliste occidental. Donc on ne se détache pas de son paradigme occidental. C'est quelque chose que Descola peut admettre sans aucun problème, parce qu'il est anthropologue. Mais du coup, il y a une logique d'appropriation qui peut faire problème. Et il y a aussi dans ce bouquin un recours à Jung, donc ça c'est dans la dernière partie du bouquin, et un recours à la notion d'archétype. J'aimerais citer un passage quand même pour montrer à quel point ça peut être problématique. Il se réfère à la notion d'archétype pour penser le féminin et le masculin. Et ils disent, pour schématiser, on trouve dans le féminin l'intuition, le mystère, l'ouverture, l'intériorité, les émotions, l'inclusion, la puissance qui prend soin, qui fait des liens et synthétise, accueille en excès, ça devient la grande fusion. Attention au féminin, parce qu'en excès, ça devient la grande fusion. Hein. La coopération, le partage du territoire, etc. Dans le masculin, on trouve alors la raison, la parole, la fermeture, la vie extérieure, l'action, l'exclusion, la puissance qui protège, qui donne du sens, qui tranche, qui analyse, qui sépare quand il le faut, En excès, ça tourne à l'agressivité et à la violence, la compétition et la défense du territoire. Donc on a l'impression qu'ici, ils vont complètement appliquer le théorème de la dissociation patriarcale, pour reprendre un terme de Scholz, qui est une féministe allemande de la critique de la valeur, qui explique que la sphère rationnelle du travail abstrait est masculine et qu'elle va dissocier de son ordre une sphère de la reproduction privée féminine qui est justement assignée à l'intuition, au mystère, à l'ouverture, etc. Sauf que eux, ils affirment ça de façon apologétique. Ils vont l'affirmer de façon apologétique en recourant aux archétypes jungiens et en disant finalement chaque homme devrait avoir une part de féminin et chaque femme devrait avoir une part de masculin. C'est quelque chose de complètement essentialisant qui va pas du tout prendre en compte l'historicité du patriarcat et qui va pas du tout prendre en compte son caractère construit surtout. Ça, c'est sur le côté jungien qui donne lieu en fait à l'insertion dans un collectif masculiniste qui s'appelle le Mankind Project. C'est un collectif dans lequel se sont insérés les collapsologues. C'est un business qui a été mis sur pied par trois États-Unis à l'initiative d'un certain Bill Coates. Pour celui-ci, psychothérapeute jungien, je cite Daniel Tanuro, il s'agissait de répondre à la vague féministe des années 80. Impressionné par le potentiel émancipateur des groupements féministes, Coates décida de mettre sur pied des groupes non mixtes censés permettre aux hommes aussi de se libérer en retrouvant leurs racines profondes et leur âme de mâle adulte et sain. Bref, en assumant leur archétype masculin. Donc ce Mankind Project, c'est un projet qu'ont fait les collapsologues. Ils racontent leur histoire. Donc, l'entrée dans le Mankind Project commence par un week-end initiatique payant dont les aspirants nouveaux guerriers s'engagent par écrit à ne pas divulguer le contenu secret. Jung s'intéressait à l'âme germanique, donc là je cite Daniel Tanuro. Son disciple Coates s'intéresse à l'âme masculine. Il explique « Je distingue l'esprit, ce qui montre la quête de la lumière, la réponse juste, la perfection et la vérité cosmique, de l'âme, ce qui descend dans le mystère, le non-savoir, la confusion, l'obscurité, le matériel. » Il faut savoir que l'âme, c'est forcément le féminin. Selon lui, notre culture nous noie dans l'esprit et nous sommes désespérément en manque d'âme, donc nous manquons de féminin. Le parcours du nouveau guerrier a du succès car il travaille à 95% sur l'âme, c'est ce dont les hommes ont besoin pour se sentir complet et équilibré. Comme on le voit, l'inconscient collectif masculin remplace l'inconscient collectif racial de Jung, mais la logique est identique. Le lien entre les week-ends d'initiation et les théories jungiennes sur le patriarcat, c'est très simple. On transformera les hommes en les amenant à retrouver les racines de leurs ancêtres préhistoriques, ces guerriers saints, droits et courageux d'avant le patriarcat. D'où la dénomination de nouveaux guerriers. Entre autres rituels, les participants dansent nus la nuit dans la forêt, autour d'un grand feu, au son des tambours. Au terme du week-end, ils sont censés être apaisés et sereins, débarrasser de leur culpabilité. Pas mal. Il faut être naïf ou de mauvaise foi pour croire aux vertus féministes et émancipatrices de telles simagrées, c'est toujours Daniel Tanuro qui s'exprime. Que les hommes soient déstabilisés par le féminisme, c'est une évidence puisque nous vivons dans une société dominée par les hommes. À l'instar des boys clubs qui reviennent à la mode, les groupes mâles non mixtes sont toujours par définition des groupes de dominants. Le fait que certains hommes souffriraient du syndrome masculin dépressif mentionné par Servigne et ses amis n'y change rien. Le Mankind Project est une branche du mouvement masculiniste. Sa spécificité a été bien saisie dans un article anonyme publié sur le site Rebellion et consacré aux dangers de cette mouvance. Les nouveaux guerriers effectuent une transformation de la domination masculine, rejetant certains aspects de la masculinité pour en valoriser d'autres, sans prendre en compte le fait que la masculinité elle-même est une position de pouvoir. Donc voilà sur quoi se clôt l'ouvrage des collapsologues sur les archétypes jungiens complètement essentialistes sur le féminin et le masculin et sur une expérience qu'ils ont faite, le Mankind Project, dont j'ai essayé un petit peu de dessiner les contours.
Je me demande en fait si finalement on n'est pas un petit peu dans les mêmes enjeux finalement que le rapport entre guillemets au savoir vernaculaire, au savoir indigène. C'est-à-dire finalement quand ils disent c'est bien, il faut quand même que les hommes ils aient un peu de féminin, c'est une manière de reconduire une division hiérarchique de l'espèce humaine basée sur des rapports de pouvoir et de les renaturaliser tout en disant
Oui, mais attention, nous, on est pour la grosse science, mais c'est bien d'avoir un peu de savoir vernaculaire. Et ben là, c'est nous, on est pour voilà des vrais hommes, mais avec un peu de féminin. J'ai l'impression que voilà, dans les deux cas, on est finalement dans une reconduction des rapports de domination et leur renaturalisation. Mais effectivement, là où ça se veut un petit peu effectivement subtil, c'est de dire gardons cette division hiérarchique de l'espèce humaine entre guillemets occidentaux scientifiques et indigènes vernaculaires d'une part et entre hommes et femmes d'autre part, mais essayons il faudrait que c'est presque les dominants devraient s'approprier un petit peu du domaine voilà des dominés pour être un petit peu plus équilibrés et un peu plus intelligents quoi. Donc voilà, c'est effectivement assez stupéfiant ce dont tu viens de parler.
Et pour continuer dans cette voie-là, on peut se dire que finalement l'une des fonctions, ou du moins l'un des effets de la collapsologie, va être de rendre idéologiquement présentable à un grand public des thèses absolument gravissimes du survivalisme. C'est qu'il y a énormément de gens qui vont pas se reconnaître en fait dans le genre de projets qui sont pour le coup du survivalisme masculiniste, le Mankind Project dont a parlé Benoît. Et là, c'est genre un lien entre les pratiques de certains collapsologues et des pratiques du survivalisme américain qui a été mis au jour par Daniel Taniero. Et beaucoup de gens vont dire, bon, moi je lis la collapsologie parce que je trouve que le propos général est intéressant et je m'intéresse pas à ces détails. Mais ces détails indiquent en fait le fait qu'il y a un angle mort dans la théorie qui leur permet d'exister en toute cohérence avec le reste. Finalement, je pense que c'est intéressant qu'on discute aussi un moment de ce que c'est que la collapsologie, non pas simplement comme discours et comme théorie, mais comme ensemble de pratiques sociales, quoi. Parce que ça dépasse, à mon sens, largement les bornes de la théorie de Servigne et consorts. Et je pense que c'est aussi la forme théorique qu'elle a prise dans l'espace francophone. On a affaire en fait à un phénomène social bien plus large que son expression théorique intellectuelle en France derrière l'idéologie de la collapsologie. Et que ces pratiques du survivalisme en fait ont tendance à conquérir de plus en plus d'adeptes dans une sorte de représentation du retour d'une lutte de tous et de toutes contre toutes. La collapsologie partage le même cadre théorique, mais tâche d'une certaine manière de rendre cette perspective plus sympathique et en imaginant qu'en fait un tel effondrement pourrait donner lieu à des pratiques d'entraide, en essayant de justifier que le survivalisme peut prendre la forme d'un buen vivir, quoi. Ouais, si on veut être, et c'est ça en fait, si on veut vraiment être un petit peu acerbe dans la critique, c'est une manière de le voir, je pense.
Presque une dédiabolisation du survivalisme.
Mais c'est exactement de quoi parle le troisième ouvrage qu'ils ont écrit, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Ils vont avoir une approche sociobiologique. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une critique de ça, parce que leur approche sociobiologique, c'est en fait une analogie entre le vivant non humain et le vivant humain, qui va se baser sur des expériences qu'ils ont faites, sur la manière dont certains arbres, par exemple, coexistent mieux s'ils s'entraident, dont certaines espèces vivantes coexistent mieux si elles pratiquent l'entraide. Et donc, cette coexistence entre les non-humains sur la base de l'entraide, elle va fournir un modèle pour l'entraide entre les humains. Et ce modèle, il va être on peut mieux exprimer à travers un jeu de l'argent, un jeu qui met en cause de l'argent, qui est le jeu du blâme public. Chaque être humain met ou pas dans le pot commun une certaine somme d'argent qu'il a reçue. Et à la fin, chacun reçoit le double de la somme qui a été mise dans le pot commun. Et il constate que dans le jeu du bien public, les êtres humains ont tendance à pratiquer plus l'entraide. Donc moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils veulent critiquer à travers le jeu du bien public la rationalité égoïste de l'homo economicus. Et ils veulent valider l'idée que l'entraide, dans la sphère du vivant, elle est un facteur régulateur bien plus efficace que la compétition. Mais en même temps, ils mettent en jeu de l'argent dans leur jeu du bien public. Et ils mettent en jeu aussi les égoïsmes personnels, puisque Si tout le monde met de l'argent dans le bien commun, dans le pot commun, alors tout le monde pourra en bénéficier à la fin. Donc les égoïsmes personnels vont pouvoir être satisfaits à travers une pratique d'entraide. Donc en fait, il prétend sortir du schéma utilitariste, mais il reste enfermé dans le schéma utilitariste. Et il prétend sortir du schéma égoïste, mais il reste enfermé dans le schéma égoïste. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils mettent en place une théorie de l'adaptation qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de reproduire le système du groupe pour s'adapter individuellement dans le système du groupe, et en reproduisant le système du groupe, on se reproduit individuellement. Et c'est comme ça que l'entraide fonctionne, de façon générique. Donc, leur jeu du bien public le montre, leur analogie avec le vivant non humain le montre. Ils pensent une entraide utilitariste qui va pouvoir en fait être un moyen, à l'ère de l'effondrement, d'éviter les effets les plus pernicieux de l'effondrement. Donc, moi, ce qui me paraît le plus problématique, c'est l'approche sociobiologique, c'est-à-dire le fait qu'on fait un pont entre le vivant non humain et le vivant humain. Deuxième approche qui me paraît problématique, c'est l'approche libérale qui part du point de vue de l'individu qui se reproduit dans le groupe. Donc ça, c'est leur troisième bouquin qui a été un peu mis de côté par rapport aux autres parce que ce n'est pas de la collapsologie explicitement, mais qui en même temps est tout à fait connecté et corrélé à la collapsologie parce que l'entraide, c'est ce qui doit se passer en temps d'effondrement. C'est ce qui doit se passer à l'ère de l'effondrement. Il s'appuie beaucoup sur Kropotkin pour penser cette sociobiologie, mais il s'appuie aussi sur des sociobiologistes américains, beaucoup plus controversés, on va dire, qui ont pensé des éléments génétiques à la base de l'entraide. Je ne vais pas entrer dans le détail à ce niveau-là, mais le mélange qu'ils font entre Kropotkin et les sociobiologistes américains va pouvoir justifier une naturalisation du fait social complètement ambivalente et qui va finalement naturaliser le fait capitaliste. Et au final, l'entraide n'exclut pas forcément la concurrence capitaliste, mais elle peut venir réguler cette concurrence capitaliste.
J'aurais tendance à penser que déjà chez Kropotkin, elle est problématique puisque c'est basé effectivement quand même sur finalement l'idée que il y aurait des lois naturelles. Donc là, les lois naturelles de Kropotkin, ce serait l'entraide qui serait opposée plus, disons, au darwinisme social et la logique finalement de garde tous contre tous, de survie du plus fort, etc. Mais je pense que même chez Kropotkin, c'est problématique. Après, peut-être une remarque en passant, c'est quand même, on voit que finalement, ils trouvent des éléments positifs dans le capitalisme. Finalement, il y a un bon fond dans l'État, il y a un bon fond dans le capitalisme. Il y a un bon fond aussi dans la compétition, dans la mesure où elle ne se ferait pas au détriment de l'intérêt commun. Donc finalement, voilà, encore une fois, ils arrivent finalement à trouver des éléments de la nature humaine positive dans le capitalisme, dans l'État, ce qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas du tout de critique de ça. Mais effectivement, j'ai tendance à penser que même chez Kropotkin, enfin toute la sociobiologie, même kropotkinienne, est une tentative complètement foireuse, puisque justement, elle aboutit inévitablement à une naturalisation des rapports sociaux.
Et encore, si l'objectif était de montrer qu'il y avait des tendances contradictoires inscrites dans la nature humaine, de toute façon, on n'aurait pas dit grand-chose, parce que ça veut dire que la nature humaine est très ouverte et qu'elle peut prendre plusieurs directions. D'une part, la lutte de tous et de toutes contre toutes, ou bien l'entraide. On n'a rien dit, en fait, tant qu'on n'a pas montré pourquoi et dans quelle situation les interactions sociales vont prendre plutôt cette direction ou celle-ci. Et on a une tendance à, je pense, dans ce que Benoît a expliqué de manière assez détaillée, de faire confiance à une histoire phylogénétique comme étant en fait la ressource dont viendra l'émancipation future. Et ce faisant, on ne se rend pas forcément compte, et là c'est le moment critique, qu'on projette sur cet ADN, sur ce fond génétique, en fait, des pratiques et des modes de comportement qui sont dérivés d'une certaine conception de l'entraide, comme maximisation du gain personnel au sein de la coopération, conception qui, en fait, dépend de notre modernité capitaliste. Mais ça, c'est pas, disons, réfléchi de leur point de vue. Voilà, donc cette coopétition qui est pensée comme une structure fondamentale de la nature humaine au lieu d'être vue comme un rapport social spécifique. Et ça montre en fait aussi que les collapsologues sont prêts à imaginer que tout peut s'effondrer, mais que malgré tout, les rapports marchands entre individus resteront. Et avec soi, peut-être aussi des formes comme l'argent, la propriété privée, etc. Donc derrière le tout peut s'effondrer, il faut commencer par se demander ce que veut dire le tout.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le point le plus central que tu cibles. C'est que moi, pour les avoir lus en détail, je me suis dit, tout va s'effondrer. Mais ce qu'il faut imaginer avec eux, c'est une réalité post-apocalyptique qui serait encore capitaliste. C'est ça, en fait, qu'ils nous font imaginer. Qui serait encore patriarcale, parce que leur schéma de pensée, c'est le néo-management, c'est l'économie, c'est tout ça, quoi. Et c'est ça qui nous oblige à penser. Il nous oblige à penser un monde post-effondrement qui serait encore capitaliste. Et ça, ça pose vraiment problème.
Oui, bah, je pense que du coup, c'est effectivement une bonne conclusion, Benoît, de dire qu'effectivement, la collapsologie pose problème dans son analyse fondamentale de la situation actuelle, de la crise écologique actuelle, et aussi dans le monde post-catastrophe pour eux, post-capitaliste pour nous, qu'ils envisagent. Donc, je vous remercie de nous avoir parlé de la collapsologie. Et donc, on invite les auditeurs et les auditrices qui voudront en savoir un petit peu plus à lire vos différents écrits sur le sujet. Donc, merci beaucoup.
Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup pour la discussion. Spectre.